Vous écoutez France Culture.
Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous. Suite ce mardi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la question de l'inachevé, de l'incomplétude, du fragment, qu'il soit bribe ou synthèse. Hier, vous avez pu entendre Olivier Schaeffer commenter pour vous l'usage du fragment dans l'œuvre de Novalis, le philosophe et poète allemand dont la passion de la totalité culmine avec, paradoxalement, l'exaltation de la forme fragmentaire. Demain, vous pourrez entendre le peintre Valerio Adami revenir pour vous sur son travail et son rapport à l'esquisse. Jeudi, nous parlerons de Jean Kelevitch, quelque part dans l'inachevé. Et vendredi, enfin, pour clore ce parcours lacunaire de l'inachevé, Brigitte Gauthier évoquera pour vous les œuvres d'Artaud, de Pinter et du grand Samuel Beckett. Mais c'est surtout, chers auditeurs, pour tout vous dire, à l'occasion d'une série de concerts organisés par le Louvre sur et autour de Pierre Boulez, que cette semaine a été imaginée pour vous. Le Louvre invite Pierre Boulez, donc, en liaison avec l'exposition Pierre Boulez, œuvre fragment, du 11 novembre au 2 décembre. Se tiendront 10 concerts à l'Auditorium du Louvre, dans les salles du musée sous la pyramide, ainsi qu'un concert à la salle Pleyel le 1er décembre 2008, où des œuvres de Schoenberg, Debussy, Stravinsky, Bartok et Boulez, évidemment, entre autres, vous seront proposées. Et du 6 novembre, au 9 février, une exposition donc avec conférences, colloques et débats autour de l'œuvre de Boulez. Et c'est de Pierre Boulez donc que nous allons parler et qui est notre invité exceptionnel aujourd'hui, que je remercie d'avoir trouvé le temps dans son emploi du temps très chargé de participer au nouveau chemin de la connaissance. Bonjour Pierre Boulez.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur France Culture. Et bienvenue également à Franck Madlener, qui est directeur de l'IRCAM, et au compositeur David Moreau, tous deux fins connaisseurs, connaisseurs amoureux de votre travail, Pierre Boulez, qui nous accompagne également aujourd'hui dans le studio 109 de la Maison de Radio France, un studio traditionnellement dévolu à France Musique. Alors Pierre Boulez, je voudrais commencer cette émission par quelques vers que vous allez reconnaître. Voici les vers en question. J'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène, dans un pré plein de fleurs, lentement se promène, qu'un torrent débordé qui, d'un cours orageux, roule, plein de gravier, sur un terrain fangeux. Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois, et souvent effacez. Ces quelques vers, Pierre Boulez, qui sont de Nicolas Boileau, de son art poétique, me semble, moi qui n'y connais rien, illustrer malgré tout à merveille votre propre travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Enfin, Boileau, je veux dire, je peux pas dire que je révère beaucoup la poésie. Le festina lente, c'est-à-dire le « hâte-toi lentement », oui, c'est un conseil de bon sens, si je peux dire, de même qu'effacer plutôt qu'ajouter. C'est aussi un conseil qui peut paraître de bon sens et qui n'est pas tellement de bon sens finalement, parce qu'il faut beaucoup ajouter au lieu de retrancher souvent, avant de retrancher en tout cas. Non, je ne suis pas tellement fou pour cet art poétique qui est typique du XVIIe siècle, très sanglé dans ses attitudes. Je préfère quelque chose de plus débridé que ça, enfin, franchement. Et moi, j'ai dit très souvent que quand on compose, il faut quelquefois se laisser aller à l'accident.
Et Boileau n'aimait pas le hasard, vous avez raison.
Boileau n'aimait pas du tout le terrain fangeux, si je peux dire, ou les excès de l'eau. Eh bien moi, je trouve qu'au contraire, il faut essayer, non pas de les chercher systématiquement, ces excès, mais en tout cas de ne pas les refuser.
Si on les cherche systématiquement, ils cessent d'être des excès ou des accidents,
oui, d'ailleurs, absolument.
Pour devenir une théorie de l'accident.
Ça devient une théorie de l'accident, et ça, ce n'est pas intéressant. Non, c'est quand on a des idées, de voir comment elles se développent toutes seules. C'est pour ça que je me suis très vite détaché, par exemple, de tout ce qui était sériel et sériel exagéré. J'ai vu très, très rapidement que ces théories de 1200 et plus que ça étaient des théories qui ne menaient à rien et que très souvent...
Parce qu'elles voulaient aller quelque part,
hein. Oui, bien sûr qu'elles voulaient. Elles voulaient dominer le monde, de la musique, bien sûr, pour un certain temps en tout cas. Schoenberg pensait qu'il pouvait le dominer pendant 100 ans, mais ce n'est même pas arrivé jusque-là. Et il y a un excès dans la discipline qui fait exactement qu'on arrive au chaos aussi. Parce qu'on donne son pouvoir à une certaine combinatoire. Et que cette combinatoire, si on la pousse à bout, eh bien, elle reconstitue des événements hasardeux. Donc je me suis très vite détaché de ça. Et Ça m'étonnait toujours, par exemple, quand les compositeurs avaient, disons, des schémas à remplir, comme des espèces de buts. Ils construisaient des buffets et dans chacun des tiroirs, ils mettaient une certaine substance. Et je trouve que c'est le contraire de la composition. Pour moi, la composition, ce n'est pas non plus le hasard. On peut prévoir une trajectoire, mais en même temps, savoir en dévier quand il en est temps encore.
Est-ce qu'à mi-chemin de la nécessité et du hasard, on pourrait parler d'aléatoire ?
Aléatoire total, non. L'aléatoire total n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est l'aléatoire dirigé. Une fois, j'ai compris ça très fort, alors dans une circonstance tout à fait inepte par rapport, disons, à la composition. J'étais à Barcelone, je me souviens, en voyage, et j'étais dehors d'une arène où il y avait une course de taureaux. Et quand il n'y avait rien d'intéressant qui se passait dans la course de taureaux, il y avait un aléatoire total des bruits de l'amphithéâtre. Et puis quand il y avait un moment intéressant, tout ça se congelait tout d'un coup et arrivait à une direction très forte. Et alors quand il y avait un olé comme ça, que vous entendiez, je ne sais pas, 5000 personnes crier olé en même temps. Et puis quand le moment intéressant était fini, on retombait dans l'aléatoire. Et c'est là où je me suis aperçu par un exemple très, très simple que l'aléatoire est un phénomène qu'on peut supporter pendant quelque temps, mais qui n'aboutit à rien. Et alors, je dois dire que quand Cage s'est mis à travailler dans l'aléatoire, là, j'ai été très défrisé, très vite défrisé, parce que ça ne menait strictement à rien. Surtout, on faisait attention, on vous dit, on fait attention à tous les bruits qu'on entend. Oui, bien sûr, mais les bruits sont plus ou moins intéressants et sont plus ou moins... attractif, c'est-à-dire qui n'attire pas votre attention spécialement et vous attendez que le temps passe, tout simplement. Tandis que quand il y a un événement dirigé, alors oui. Ou alors l'aléatoire, quand il sert de fond. Ça, oui, ça, j'ai utilisé ça dans une œuvre de moi qui s'appelle Répond. À un moment donné, il y a une structure électronique qui se renouvelle par elle-même. Quel que soit si on l'entend ou si on l'entend pas, elle continue à évoluer. Bien, alors quand par exemple un instrument joue suffisamment fort, il fait apparaître ce fond sonore. Et quand il ne joue plus suffisamment fort, ce fond sonore disparaît, mais continue à évoluer. Et c'est-à-dire que quand il réapparaît à un autre moment, il réapparaît dans la même conjonction de phénomènes, mais en même temps, il est complètement différent. Et si vous voulez comparer, moi j'aime beaucoup les comparaisons triviales parce qu'au moins elles vous donnent vraiment un point de comparaison assez fort. Si vous faites quelque chose, si vous travaillez, et puis vous regardez un nuage, bon, vous voyez une série de nuages qui ont une certaine forme. Très bien. Vous continuez à travailler, vous ne faites plus attention du tout à l'évolution des nuages, puis tout d'un coup, vous rêvassez un peu et vous regardez les nuages de nouveau. Et vous voyez, tiens, ce ne sont pas les mêmes nuages, mais c'est exactement le même type de structure. Et ça, c'est intéressant, oui, parce que là, vous avez un geste dirigé qui modifie le rapport que vous avez à l'aléatoire. Mais si vous avez l'aléatoire seul, vous n'allez pas regarder les nuages, à moins que vous fassiez une observation météorologique, vous n'allez pas regarder un nuage pendant 2 heures pour voir simplement si ça continue.
Vous savez, Pierre Boulez, que c'est en regardant les nuages que Kant a eu l'intuition de la beauté comme finalité sans fin.
Oui, mais il a regardé les nuages dans une perspective très précise à ce moment-là.
Non, puisqu'en l'occurrence, les nuages ne lui permettaient de dire que la beauté était sans concept, mais universelle quand même.
Non, je pense qu'il regardait avec intention. C'est comme la pomme de Newton. Vous savez, quand elle est tombée sur son nez ou sur sa tête, je ne sais pas, mais il avait dans la pensée, en tout cas, le désir de trouver la gravitation universelle. Bon, il l'a trouvé peut-être par la pomme, je ne sais pas encore que c'est une légende, mais il n'y aurait pas
eu la pomme, ça n'est pas un accident. Vous pensez que ça n'est pas un accident ?
Non, ce n'est pas un accident,
certainement pas. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas rejet du chaos que vous récusez les dispositifs trop, trop sanglés comme ceux de Boileau, mais juste encore une chose quand même, Pierre Boulez, là-dessus. J'ai cité ces vers de Boileau, pensant à votre travail.
Oui.
Hélas,
je dirais.
Oui, mais alors vous allez voir, ce n'était pas le hâtez-vous lentement ni le terrain fangeux, c'était 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage.
Oui, ça oui, mais pas dans le sens de... Parce que dans le sens de Boileau, c'est simplement vous le remettez au nuage pour polir. Moi, ce n'est pas pour polir, c'est pour développer l'idée. Et ça n'a rien à voir avec justement une sorte de polissage extrême où vous avez, du reste, le résultat de Boileau, c'est que ces vers sont très terriblement ennuyeux parce qu'ils ont bien 12 pieds et que le 12e pied est aussi assommant que le premier, je trouve. Enfin, excusez-moi de parler franchement, mais là, voilà.
Est-ce de cette façon que vous avez composé, donc en remettant votre ouvrage sans le polir, Explosante fixe ?
Ah oui, mais Explosante fixe, c'est différentes étapes. tout simplement. Ces différentes étapes qui n'ont rien à voir avec le polissage, justement, qui ont à voir avec le développement de l'idée et qui fait que l'œuvre est totalement transformée et qu'elle n'a rien, presque plus rien à voir avec l'idée de départ.
David Moreau.
Pour moi, être en présence de Pierre Boulez, c'est comme être en présence de Mahler ou de Stravinsky. C'est croiser l'histoire. Bien sûr, il y a le grand chef d'orchestre, Giraud, Bayreuth, la recherche avec le Jérém, l'IRCAM, l'intellectuel, l'homme de pouvoir, sa politique culturelle, le domaine musical, la Villette, l'ensemble intercontemporain. Mais tout cela, souvent, fait écran à votre musique, qui est une œuvre vaste et belle. Derrière la structure, les séries, les diagonales, les bandes passantes, les filtres, les centres virtuels, c'est en fait un cœur chaud qui travaille la sonorité, tout comme Gesualdo, Mozart ou Berg. Juste une écoute intérieure différente. On pourrait dire presque que la musique s'est servie de vous, Pierre Boulez, pendant 60 ans, pour s'élargir, gagner du terrain sur l'usage de la sonorité, s'épanouir et s'ouvrir à des chants féeriques, ivres. Merci Pierre Boulez, merci maître.
Ça, c'est une intervention de David Moreau. Revenons sur Exposante Fixe qu'on vient d'entendre quand même, Pierre Boulez. Et d'ailleurs, avant cela, que répondre à un éloge de cette nature ?
Écoutez, je ne réponds pas, j'accepte, enfin, même en rougissant, si je peux dire, parce que on ne fait pas exprès ce genre de choses. C'est-à-dire, on écrit, on ne pense pas, disons, à la résonance que ça peut avoir. Moi, en tout cas, j'écris toujours pour m'exprimer, mais m'exprimer en disant pour joindre des autres.
C'est pas René Char disait simplement cela, hein, quand il parlait des arbres qui étaient libres de ne pas donner de fruits. Il parlait justement de cette...
Il faut un échange. La musique est un échange avant tout. Et que ça soit du reste en tant que chef d'orchestre, directement même avec le matériel des autres, ou alors en tant que compositeur, oui, j'aime quand on... Non seulement quand on aime ma musique, disons extérieurement, que la sonorité plaît, etc., mais quand ça touche quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus direct que simplement la sonorité. La sonorité aide à faire passer un message. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et ça m'a intéressé toujours de dominer mon métier, non pas simplement pour le polisser et le repolisser, justement, mais j'ai dit une fois, j'ai pris un exemple, c'est que c'est comme un diamant. Un diamant, ce n'est pas fait pour simplement porter comme une bague, c'est fait pour rayer. Et pour rayer définitivement et pour couper. Et c'est dans ce sens-là que si je dois vraiment m'intéresser à mon métier, c'est pour tailler un diamant qui coupe.
Que reste-t-il du charbon dans le diamant que vous taillez, Pierre Boulez ? Parce qu'on parlait de la fange tout à l'heure, justement.
Le charbon, alors là, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est des siècles et même des milliers de siècles avant moi.
Oui, c'est ça.
Oui, des milliers de siècles avant moi. Donc, j'utilise la forme actuelle, tout simplement. Mais je veux qu'elle soit efficace.
Juste encore une chose quand même. On a entendu David Moreau vous faire un éloge vibrant. Vous dites vous-même ne pas vouloir de disciple, Pierre Boulez, si j'ai bonne mémoire. Quand quelqu'un vous appelle maître, hein, qu'est-ce que...
Je vous dirais d'une façon assez bébête qu'on s'y habitue. Et que s'il fallait chaque fois dire Écoutez, ne m'appelez pas maître, appelez-moi monsieur ou n'importe comment, et vous ne me l'appelez pas du tout. Alors, on le dit une ou deux fois, puis au bout de quatre fois, on dit bon, très bien, et puis voilà. Mais quand on connaît davantage les gens, le maître se supprime de lui-même, tout simplement. Moi, c'est pas des titres auxquels je fais attention. Alors, quand on, par exemple, aux États-Unis ou même en Allemagne, on vous appelle maestro, parce que maestro, c'était Toscanini, et que ça, la tradition vient de ça, qu'on vous appelle en italien. Bon, moi, on m'appellerait, je ne sais pas, meister, je dirais oui, très bien, parfait, pourquoi pas. Enfin. Mais c'est pas une chose qui me gêne. Au point que ça coupe la communication avec les gens. Non. Si on se connaît mieux, ben, là, ça disparaît, tout simplement.
Franck Madeleine.
Alors, puisqu'on a entendu Exposante Fixe, je peux peut-être donner une impression, le connaissant bien l'œuvre, et puis une lecture, finalement, de cette écriture. C'est qu'il y a un foisonnement, il y a un aspect virtuose, labyrinthique. Il y a cette forme qui se déploie, qui s'est agrandie, et qui pourtant a un terme. Et ça, je trouve, c'est le plus passionnant dans cette dialectique du fragment et de la totalité. C'est que, finalement, le fragment, qui est une sorte de noyau, qui lui-même a des potentialités infinies, des possibilités de ramification infinies, a pourtant un terme. Et c'est ce jeu-là que je trouve qui est extrêmement puissant et dans Exposante Fixe et dans Répond, qui est une œuvre virtuellement infinie, quand bien même sa durée est marquée. Et ça, c'est une réflexion formelle, une écriture formelle qui est venue peu à peu, finalement. On ne peut pas dire qu'elle soit venue immédiatement dans votre écriture. Je ne sais pas à quel moment ce basculement vers une forme en spirale a eu lieu. Est-ce que c'était par l'absorption de ce qui a pu se faire ailleurs ou par une pensée après Mallarmé, après le pli selon pli?
C'est venu après. Là, ça fait un peu pédant ce que je veux dire. C'est venu après, à partir de Mallarmé, oui. C'est-à-dire à partir de ma troisième sonate de piano, qui n'a jamais été finie d'ailleurs, parce que je me suis arrêté, parce que j'arrivais pas, du reste, à trouver une solution. J'avais fait le schéma des cinq pièces existent. Mais il y en a deux qui ont été réalisées et les trois autres, je me suis découragé au moment même. Parce que c'était trop difficile de trouver une solution de contraste tout en gardant tout de même une individualité à chaque pièce. Bon, alors voilà, et c'est à partir de ce moment-là. Et aussi, il y a un aspect de ma vie qui a compté malheureusement trop. À un moment donné, quand j'ai eu une activité de chef d'orchestre, qui quelquefois a entraîné des périodes très actives du point de vue de la direction et qui m'ont empêché de simplement réfléchir et de travailler pour moi. Alors, il y a en effet, disons, la meilleure façon d'utiliser les ruptures. C'est-à-dire, une rupture incite à faire une ferme qui n'est pas terminée. Mais il y a par exemple, j'avais été très frappé la première fois que je l'ai vu, il y a longtemps, c'était en 62 ou 63, je ne me souviens plus, le Guggenheim Museum à New York, qui est une spirale où on se dit l'architecture pourrait continuer comme ça, beaucoup plus haut. Et je trouve que visiter le Guggenheim Museum, quoique les spécialistes trouvaient ça horrible, parce que on n'avait pas de parcours exactement, ou on avait un parcours beaucoup trop obligé. Moi, ce que j'ai trouvé dans le Guggenheim Museum, ce qui m'a fait réfléchir, et ce qui m'a fait réfléchir à ce que j'ai transposé en musique après, c'est que quand vous visitez une exposition, vous voyez toujours ce que vous allez voir et ce que vous avez vu. C'est-à-dire que vous êtes à la fois en présence du présent, c'est-à-dire de la chose que vous regardez, mais vous avez la perspective du futur et du passé.
Ça, Pierre Boulez, c'est ce que Spinoza explique quand il fait la différence entre la nature naturante et la nature naturée. Vous allez avoir le bonheur de découvrir cette différence puisque Daniel Barenboim vient de vous offrir l'éthique à la fin d'une émission que vous faisiez pour nos amis de France Musique. On a évoqué Mallarmé, on va rester sur Mallarmé un instant avec vous, Pierre Boulez, et un coup de dé qui jamais, c'est bien connu, n'abolira le hasard.
Rien de la mémorable crise où ce fut l'événement accompli en vue de tout résultat nul, humain, n'aura eu lieu. Une élévation ordinaire verse l'absence. Que le lieu inférieur clapotis quelconque comme pour disperser l'acte vide, abruptement qui sinon, par son mensonge, eût fondé la perdition. Dans ces parages du vague en quoi toute réalité se dissout, excepté à l'altitude, peut-être, aussi loin qu'un endroit fusionne avec au-delà, hors l'intérêt quant à lui signalé, en général, selon telle obliquité par telle déclivité de feu, vers, ce doit être le septentrion aussi nord, une constellation, froide d'oubli et de désuétude, pas tant qu'elle n'énumère sur quelque surface vacante et supérieure le heurt successif, sidéralement, d'un compte total en formation, veillant, doutant, roulant, brillant et méditant, avant de s'arrêter à quelque point dernier qui le sacre. Toute pensée émet un coup de dé.
Vierge, le vivace et le bel aujourd'hui va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre, ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Pourquoi Mallarmé, Pierre Boulez ? Pourquoi aimez-vous tant
c'était,
Mallarmé ? D'où vient Mallarmé ?
C'était une discipline à l'époque, parce que j'avais déjà écrit « Visage nuptial », qui est un poème narratif, bien sûr. Mais c'est un langage, au fond, plutôt inventif, anarchique, je dirais. Tandis que chez Mallarmé, il y a une espèce de discipline de l'écriture qui est vraiment, alors là, extraordinaire. Et discipline personnelle.
Quelle différence feriez-vous entre la discipline exogène, arbitraire, que Boileau veut infliger à la poésie et la discipline dont vous parlez chez Mallarmé ?
Je crois que d'abord, il y a la richesse et la sonorité.
Ça, on est d'accord.
Boileau ne parle pas du tout.
Non, effectivement.
Et ça, c'est la.
C'est le terme de discipline, si vous voulez, qui me frappe.
Oui, c'est la discipline parce que c'est une discipline où d'abord, il utilise vraiment le nombre 8 comme quelque chose de très spécifique. Et aussi, les rimes sont les rimes d'un sonnet. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de transposer, pas tellement dans celui-là, celui-là est plutôt narratif, c'est dans le second déjà où j'ai disons, élargi cette idée de correspondance. C'est quand j'ai fait correspondre, par exemple, un vers à un style vocal. Le premier vers à un style vocal florissant, ou la première strophe, un style vocal tout à fait avec des mélismes, c'est-à-dire très orné.
Dites à l'auditeur ce que vous entendez par mélisme.
Mélisme, ce sont des courbes mélodiques qui sont extrêmement riches et extrêmement ornées, tout simplement. Et puis, au contraire, dans la seconde strophe, j'ai insisté sur le 8, le chiffre 8, qui est le chiffre de syllabe qu'il a dans le vers. Et ça, c'est au contraire, je me suis servi de la diction syllabique, c'est-à-dire qu'une note correspond à une syllabe. Alors, il y a un moment donné où on perd le fil du sens dans les deux cas, parce que quand il y a un excès d'ornementation, les mots sont surchargés d'ornementation
et donc sont dissous
dans l'ornementation. Mais si on sépare les syllabes les unes des autres, avec de plus en plus de temps entre...
On obtient de la matière verbale.
On obtient de la matière purement sonore. C'est-à-dire, le mot se réduit plutôt à sa sonorité qu'à son sens.
Donc, il y a deux façons de se débarrasser du sens. Hein. La première, c'est
de s'en débarrasser, c'est le magnifier d'une autre façon. C'est-à-dire le magnifier d'une façon qui n'est pas seulement dite, mais qui est d'abord qui est chantée. Et il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est que dès qu'on chante quelque chose, c'est pas naturel. Si vous voulez, moi j'ai dit toujours, si vous voulez comprendre le poème, lisez-le. C'est la meilleure façon de le comprendre. Et là, ce que je fais, c'est une sorte de transposition. Et je prends ce matériau comme quelque chose que je peux travailler à mon gré.
Voilà. Franck Madlener.
Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que, pour revenir à cette notion de fragment et de totalité, c'est que l'ensemble de pli selon pli opère un geste malherméen, c'est-à-dire qu'il commence par un coup, un accord, il se termine. Entre don et tombeau, il y a un effet de symétrie. Et vous avez de nouveau ce développement immense, je pense, à la fin de don en particulier, avec cet aspect antiphonique. Donc vous avez une démultiplication des lignes de l'hétérophonie qui est très passionnante. Et dans Mallarmé, il y a un autre élément qui est l'élément, je dirais, soustractif du retrait. On pourrait presque dire que finalement, on perçoit tout ce qui a été enlevé de cette syntaxe. La discipline, c'est aussi vraiment la syntaxe. Et une musique qui s'engage dans le langage, finalement, qui voit qu'il y a une crise du langage, on sent bien que Mallarmé a beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque finalement Mallarmé, de son côté, a rencontré les mêmes problématiques dans le domaine littéraire, et donc a dû inventer une syntaxe, finalement.
Mm-hmm. Dans la poétique de l'œuvre ouverte, Umberto Eco parle de la question de l'achèvement dans votre travail, Pierre Boulez. Et je voudrais qu'on entende, c'est un très beau texte, tout à fait étonnant, je voudrais qu'on entende le texte d'Umberto Eco, justement, qui parle de cette question de l'achèvement et de l'ouverture. Mm-hmm. Écoutez.
Les esthéticiens parlent parfois de l'achèvement et de l'ouverture de l'œuvre d'art pour éclairer ce qui se passe au moment de la consommation de l'objet esthétique. Une œuvre d'art est d'un côté un objet dont on peut retrouver la forme originelle telle qu'elle a été conçue par l'auteur à travers la configuration des effets qu'elle produit sur l'intelligence et la sensibilité du consommateur. Ainsi, l'auteur crée-t-il une forme achevée afin qu'elle soit goûtée et comprise telle qu'il l'a voulu. Mais d'un autre côté, en réagissant à la constellation des stimuli, en essayant d'apercevoir et de comprendre leurs relations, chaque consommateur exerce une sensibilité personnelle, une culture déterminée, des goûts, des tendances, des préjugés qui orientent sa jouissance dans une perspective qui lui est propre. Au fond, une forme est esthétiquement valable justement dans la mesure où elle peut être envisagée et comprise selon des perspectives multiples, où elle manifeste une grande variété d'aspects et de résonances sans jamais cesser d'être elle-même.
Au fond, c'est la question de l'interprétation qui est en jeu ici, Pierre Boulez. Est-ce que l'interprétation est une création à part entière ou une recréation à chaque fois ?
Non, c'est une recréation. Je pense que, oui, il y a un texte qui existe et un texte n'existe que par les distorsions qu'on lui fait subir, en général. Il ne faut pas que les distorsions soient contre le texte, mais quand les distorsions sont en phase avec le texte, là, certainement, oui, la distorsion est tout à fait justifiée. C'est pour ça que les textes subsistent. Du reste, c'est au théâtre la même chose. Dans la poésie, la même chose, mais surtout au théâtre, on s'en rend compte.
David Moreau.
Oui, Pierre Boulez, ce qui veut dire que la partition, le texte précis, tolère une certaine liberté.
Non seulement il le tolère, mais il le provoque. Alors, surtout, puisqu'on a parlé d'Umberto Eco et de l'œuvre ouverte, il y a un moment donné où c'était vraiment une très grande préoccupation des musiciens de ma génération, en particulier, de trouver, justement, contre cette espèce de discipline extrêmement dogmatique qui avait régné pendant un certain temps, de trouver un moyen de créer des formes où l'interprétation pouvait se libérer de ce carcan. Et j'ai écrit une œuvre, en particulier Éclat, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est une succession de fragments, mais de fragments dont l'ordre n'est pas obligatoire. Mais il y a tout de même une enveloppe, c'est-à-dire vous avez des objets similaires dont la succession n'est pas prévu. Alors vous me demanderez, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert, à mon avis, et ça, c'est l'interprétation qui m'a enseigné ça, et j'ai fait plus tard, dans d'autres œuvres, j'ai insisté sur cet aspect, c'est que quand le musicien n'est pas sûr d'une entrée, qu'il n'est pas sûr de l'ordre, il y a une tension qui est impossible à provoquer autrement. C'est-à-dire que vous avez les musiciens sont comme les touches d'un clavier, seulement des touches qui attendent, elles, qui ont conscience de cette attente. Et quand ils attendent ça, ils sont, disons, non pas surexcités. Il n'y a pas moyen. Quand on a bien répété, on peut s'attendre à ce qu'on soit appelé le premier au lieu d'être appelé le troisième à jouer. Mais il existe une tension qui est uniquement possible grâce à ça. Du reste, il y a divers moyens de provoquer la tension, les moyens de la difficulté, même la difficulté digitale, disons. Quand il y a de la très grande virtuosité, il y a tout d'un coup une tension qui se crée qui est absolument impossible à créer autrement. Là, j'ai fait, par exemple, c'est dans une autre œuvre de moi, qui est sur Incise, où vraiment la vitesse est très dangereuse. Si quelqu'un se casse la figure, c'est vraiment tout le monde qui se casse la figure, absolument. Et donc, il y a ce que j'aime dans la virtuosité, ce n'est pas la virtuosité pour elle-même, c'est le danger qu'elle suscite. Et ce danger-là est pour moi très important. Ou alors, ce sont des dimensions qui sont non pas imprévisibles, mais qu'on estime soi-même. Si c'est la dimension d'une résonance, par exemple, sur Incise, il y a beaucoup de ces exemples-là. Je laisse filer cette résonance jusqu'à ce qu'elle ne me satisfasse plus. Si quelqu'un est satisfait plus tôt, il joue un peu plus tôt, tout simplement. C'est-à-dire que je ne donne pas de valeur, je ne donne pas de valeur de durée, mais je laisse l'instrument s'expliquer lui-même par la durée.
Franck Madlener.
Non, c'est l'exemple même d'éclat, finalement, puisque à chaque fois qu'on écoute éclat, il est dépendant de la résonance des instruments et de l'acoustique de la salle. Et donc, il y a une flexibilité de l'interprétation, alors même que le texte est là et qu'on peut l'interpréter. C'est ce geste de l'interprète lié au moment même qui est passionnant et qui dessine une trajectoire dans éclat.
C'est à regret que je reprends la parole, Pierre Boulez, et que j'interromps sur Incise que nous sommes en train d'écouter. Ça dure 22 minutes. Malheureusement, les nouveaux chemins de la connaissance qui ne durent que 50 minutes ne peuvent pas se permettre un tel luxe. Pierre Boulez est avec nous dans les nouveaux chemins de la connaissance, dans le cadre d'une semaine que nous consacrons à l'inachevé, à l'occasion en vérité de l'exposition que le Louvre vous consacre, Pierre Boulez, et autour de la question du fragment. Je voudrais avoir votre sentiment sur un texte dont je sais que vous l'aimez beaucoup, qui se trouve dans Un amour de Swann. C'est peut-être les pages les plus heureuses d'ailleurs de La recherche du temps perdu, et c'est pas peu dire. C'est le moment de la première rencontre pour le lecteur avec la petite phrase de Vinteuil. Et Proust dit, après avoir dit la toute première fois, décrit la toute première fois où Swann a été bouleversé par cette phrase, cette phrase n'est pas encore l'hymne de son amour pour Odette. Elle ne le deviendra qu'ensuite. Mais il dit, on est vraiment, c'est la première rencontre avec la petite phrase, et il dit ceci, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, et c'est intéressé comme question, d'un rythme lent, dit Proust, la petite phrase donc, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis.
Oui, je crois que c'est son expérience de la musique qui est curieuse. Alors, il y a un moment qui est plus intéressant sur la musique dans Proust, c'est son analyse du troisième acte de Tristan, du début du troisième acte de Tristan. Là, alors, on sent d'abord une expérience personnelle, premièrement, et on sent que ça s'applique à une partition très précise. Tandis que la sonate de Vinteuil, d'après ce qu'on sait en tout cas, C'est un espèce de mélange entre Fauré et Saint-Saëns, qui est assez curieux du reste, parce que le principal, je crois que le principal souci de, au départ, en tout cas, de Proust était de matérialiser cette phrase de Saint-Saëns, avant tout. Et puis finalement, quand, mais quelques années après, il dit oh, cette phrase de Saint-Saëns ne vaut rien du tout, et j'ai fabulé là-dessus. Si bien qu'on ne sait pas trop que penser du mensonge de Proust, parce que c'était un spécialiste du mensonge, comme vous savez, du mensonge noble, bien sûr.
Et, inintelligible et précis.
Ah oui, oui, absolument. Mais c'est intéressant, oui, de voir comment il a transformé complètement une chose banale dans quelque chose d'absolument unique.
Et mais pardon, mais est-ce que ça n'est pas exactement ce qu'on disait tout à l'heure de l'interprétation, Pierre Boulezin ?
Non, il
parce que l'art du mensonge,
il fait disparaître. À ce moment,
il fait disparaître sous un tombeau de mots à ce moment-là.
Oui, mais personne ne pense à Saint-Saëns quand on parle de la sonate de 20 heures.
Et est-ce que la question de l'origine de cette phrase a encore une importance ?
Non, plus du tout.
Ah, voilà.
Plus du tout. Mais oui, mais je veux dire, quand on ne peut pas ne pas le savoir, si vous lisez Proust dans les détails, vous ne pouvez pas ne pas savoir, puisqu'il s'est lui-même expliqué abondamment sur toutes ses sources en général, vous ne pouvez pas ne pas savoir que c'est avant tout Saint-Saëns et peut-être un peu de Fauré.
David Moreau. Oh,
mais, oui, alors après c'est une querelle de spécialistes et je crois que beaucoup s'essayent à cet exercice un peu périlleux et toujours un peu amusant, vu l'amour qu'avait Proust pour la musique. Alors on parle aussi d'Alcan, il y avait un compositeur assez peu connu,
Alcan, oui, oui.
Dont on dit qu'il aurait eu une vie un peu triste comme celle de Vinteuil. En même temps, est-ce qu'on peut imaginer que cette petite phrase de Vinteuil, en fait, elle pourrait tout à fait être un extrait des notations, un extrait d'une fugue de Bach. Mm-hmm. Elle a le caractère finalement assez caractéristique de la musique que d'échapper et que de faire se souvenir.
Alors, oui, mais quand même, il dit qu'elle descend, qu'elle commence par l'aigu et qu'elle descend progressivement vers c'est tout ce qu'on peut dire.
On peut essayer de la trouver dans les notations.
Ah oui, non, absolument. Non, mais je veux dire,
j'ai l'impression qu'il rend hommage à la musique, en fait, plus oui. que de rendre hommage à une phrase ou une autre, ou à une esthétique ou une autre, peu importe, Fauré, Bach ou Boulez, oui. finalement, c'est à la musique qui rend hommage.
Mais chacun s'imagine, et ça c'est tout à fait normal, chacun s'imagine la phrase de Vinteuil autrement. C'est bien que si on voulait la matérialiser, ce qu'on a essayé de faire déjà, on est complètement à côté de la plaque.
Enfin, comme d'essayer parfois de mettre des mots sur de la musique,
oui.
par exemple. Finalement, elle parle bien mieux elle-même,
oui, oui,
je
oui,
pense.
Non, hein, c'est vrai.
Sauf
oui.
le respect, parce que c'est
mais,
très intéressant.
Mais dans la phrase de Vinteuil, moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, le moment le plus caractéristique de l'analyse musicale chez Proust, c'est quand il parle de Tristan.
Oui, parce que là, c'est très précis.
C'est très précis.
Oui. D'accord.
Vous faites hommage à Proust, Pierre Boulez, d'avoir saisi, dites-vous, la vie autonome du motif wagnérien. Plus exactement, c'est-à-dire, oui. ça n'est pas vous qui le dites, je crois que c'est Claude Samuel.
Oui, c'est possible.
La vie autonome du motif wagnérien, en tant qu'il passe par des vitesses variables, donc je lis Claude Samuel, traverse des altérations libres, entre dans une variation continue qui suppose une nouvelle forme du temps pour les êtres musicaux. Il y a un personnage dans La recherche du temps perdu, qui est un personnage d'ailleurs étonnant, puisque c'est un des rares personnages avec Bergotte dans lesquels on se trouve. Hein. Mm-hmm. C'est le personnage de Swann, dont les aventures dans l'amour avec Odette précèdent la naissance même du narrateur, enfin quasiment. Et donc ce personnage évolue, on le retrouve sous des identités successives, sous des variations. Quel est le statut de cette variation, la figure de Swann dans La recherche?
Ça, écoutez, alors puisqu'on parle de fragments et de fini. Dans Proust, il y a moi une chose qui m'a frappé dans la grande édition critique de Proust, qui est la dernière qui a été publiée dans la Pléiade, c'est de voir comment un épisode ou une anecdote, comment on veut l'appeler, prend naissance avec un personnage. Il décrit un personnage dans telle situation et s'il lui arrive ceci. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on voit dans la rédaction finale ? Cette anecdote, le même épisode exactement, s'est attribué à un autre personnage dans une autre circonstance avec d'autres conséquences. Et ce n'est pas un seul cas, il y a plusieurs cas comme ça. Et c'est étonnant de voir comment il invente dans une sorte d'ordre donné et puis comment il démonte cet ordre pour en faire un autre. Et un autre qui est tout de même très, très important étant donné que le personnage change. Et la circonstance change.
David Moreau.
Pierre Boulez, vous êtes en train de parler de Proust ou vous êtes en train de parler de votre travail ?
Oui, mais c'est pour ça que j'aime ça. Alors, il y a deux comparaisons moi, que j'aime énormément dans la littérature. C'est Proust avec sa façon de... et la nouvelle Le Terrier de Kafka. Quand la bête qui est dans le terrier a tellement de réserves qu'elle ne sait plus où les mettre et qu'elle les transporte de peur de les perdre, qu'elle les met dans un coin et dans un autre et finalement elle ne sait plus du tout où elles sont. Et il y a quelque chose de ça dans la richesse de la composition, c'est qu'on accumule, sans noter tout et qu'on a peur, on ne sait plus du tout où mettre les choses. Le terrier est une nouvelle à la fois fascinante et horrifiante par ça, parce qu'on invente et on ne sait plus ce que ça devient.
C'est vous qui, Pierre Boulez, parlant de Boileau tout à l'heure, disiez qu'il valait mieux accumuler que retrancher.
Oui, mais justement, ça crée l'anxiété, tout simplement.
Franck Madeleine.
On pourrait appeler ça, sans mauvais jeu de mots, le temps perdu de la recherche. C'est-à-dire cette accumulation de motifs.
Un excellent jeu de mots. Pourquoi mauvais jeu de mots? Allez-y.
Bon, mais c'est très intéressant comment ces éléments, qui sont un peu hors temps par rapport à une œuvre, vont entrer à l'intérieur. Et ce passage-là, qui est finalement l'idée même d'une recherche, ce passage d'un hors-temps à quelque chose d'irréversible, éventuellement, d'irrésistible, est le moment même, je dirais, de la création. Et c'est très présent chez Kafka. Chez Kafka, ce qui est frappant à nouveau, c'est l'abrupté avec laquelle ces nouvelles s'interrompent. Et aussi la capacité de faire des digressions d'évoquer les différentes possibilités, les différentes bifurcations d'un récit. Donc un aspect non linéaire qui s'arrête très brutalement.
Et la brutalité d'une interruption et un aspect non linéaire du récit va donc avec un refus de conclure. Est-ce que vous le prendriez à votre compte dans votre travail, Pierre Boulez? Je pense à Flaubert. Hein, nous sommes un fil, nous voulons connaître la trame et la bêtise consiste à conclure. Non, vous savez.
La conclusion est une conclusion artificielle, toujours. Mais moi, ce qui m'a frappé, par exemple, même dans les opéras de Wagner, qui pourtant sont très bien constitués, quelquefois, le deuxième acte de Parsifal, par exemple, ça se termine, oui, très bien, ça se termine, boum, 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 comme ça. La fin du Crépuscule des dieux. Et toutes les catastrophes arrivent alors que tout de même on a eu 16 heures de musique avant ou quelque chose comme 14 heures. Tout d'un coup, la catastrophe arrive en à peu près 3 minutes ou 4 minutes. Il y a quelque chose de totalement disproportionné. Et finalement, on se dit, bon, on finit en ré bémol majeur. On a commencé en mi bémol majeur, mais on pourrait recommencer le cycle puisque l'or est de nouveau dans le Rhin. Et on pourrait recommencer tout le cycle un ton en dessous, tout simplement. Il y a quelque chose qui est fascinant dans Wagner, c'est qu'en dépit de sa détermination à terminer, la fin vous laisse un peu suspendu comme ça. Est-ce que tout le monde a remarqué? Je ne suis pas le premier à le remarquer d'ailleurs.
David Moreau.
Et on peut trouver l'expression de ce genre de choses dans un tout autre domaine. On pense aux vitraux de Soulages dans
l'église de Conques.
L'église de Conques. Le matériau est le même. Il a été fabriqué pour que la lumière fabrique une atmosphère différente. Les matériaux sont les mêmes, la structure est la même. Mais selon la lumière, tout change.
Oui, c'est vrai, oui, absolument.
Alors, on va passer de Wagner à. Enfin, on va revenir à Vinteuil, ou Saint-Saëns, ou qui on veut d'ailleurs, ou Mozart, ou le silence proustien, ou plus exactement à vous, Pierre Boulez. Et cette fois-ci, passer de la petite phrase de Vinteuil, de la sonate de Vinteuil, à votre troisième sonate pour piano. Et avant d'en entendre quelques mesures, quelques démesures, on va entendre Umberto Eco, enfin, un texte d'Umberto Eco qu'il consacre justement à ce travail.
Dans sa troisième sonate pour piano, Pierre Boulez prévoit une première partie, formant un antiphonie, composée de 10 sections, réparties sur 10 feuilles que l'on peut combiner comme autant de fiches, même si toutes les combinaisons ne sont pas admises. La deuxième partie, formant deux, trope, se compose de 4 sections, dont la structure circulaire permet de commencer par n'importe laquelle, pourvu qu'on la rattache aux suivantes de façon à clore le cercle. Les possibilités d'interprétation à l'intérieur de chaque section sont limitées. Cependant, l'une d'elles, parenthèse, par exemple, commence par une mesure dont le temps est indiqué et se poursuit par d'amples parenthèses à l'intérieur desquelles le temps reste libre. Les indications précisant le mode de liaison d'un passage à l'autre, sans retenir, enchaîné, sans interruption, etc., assure le maintien d'une sorte de règle. De plus, toute structure placée entre parenthèses peut ne pas être jouée.
En écoutant le texte d'Umberto Eco, Pierre Boulez, deux choses de René Char me viennent à l'esprit, et c'est une façon aussi de boucler la boucle sans conclure, hein, puisqu'on arrive malgré tout et malheureusement au terme de cette émission. La première, c'est un vers, c'est dans Mon pays, comme il dit, le poème sur son pays, où il dit « Les arbres sont libres de ne pas donner de fruits hein, ». On en avait parlé au début, et cette première idée, cette liberté qu'on a, que quelque chose puisse ne pas être joué, ou qu'un arbre puisse avoir la liberté de ne pas donner de fruits, me semble qu'il y a quelque chose là qui se ressemble. Et la deuxième chose, c'est chez Char, vous savez, les routes aimées sont les routes qui ne promettent pas le chemin de leur destination. Est-ce que vous souscrivez à tout cela?
Je vais vous donner une troisième citation
de Char. Allez-y, magnifique.
Qui est « Seules les traces font rêver ». Et je trouve ça très beau, parce que les traces, quelquefois, font plus rêver que les réalisations.
Vous savez, c'est étonnant parce que le principe des nouveaux chemins de la connaissance, c'est qu'il faut laisser des traces et non des preuves. C'est sur ce principe que l'émission repose. C'est comme ça qu'on l'a proposé.
Je ne le savais pas, mais je suis tout à fait dans le droit fil de l'émission. Alors.
C'est la raison pour laquelle ce sera le mot de la fin. Merci Pierre Boulez d'être venu. Merci Pierre Boulez d'être venu au Nouveau Chemin de la Connaissance, qui vous doivent hein, l'idée de cette semaine sur l'inachevé. C'était une joie de vous accueillir. C'est de vous dont on vient de parler, et à l'occasion de la grande manifestation qui vous est consacrée au Louvre jusqu'au 9 février 2009 sur le thème de l'inachevé, du fragment, des expositions, des conférences, des colloques et des concerts, tous ces renseignements sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Je vous signale par ailleurs qu'un catalogue de cette exposition est édité par Gallimard, Pierre Boulez, œuvre, fragment. L'ouvrage est accompagné d'un DVD avec un concert de musique, c'est Éclat, qu'on peut entendre, dirigé par Franck Schaeffer. Franck Madlener, merci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous dirigez l'IRCAM depuis janvier 2006. David Moreau, merci d'être venu. Vous êtes compositeur pour la danse contemporaine et le cinéma. On peut vous entendre en particulier dans le film « Ce que mes yeux ont vu ». Pierre Boulez, on vous retrouve demain, mercredi, dans plusieurs émissions de France Culture, et en particulier les matins d'Ali Badou et Tout arrive d'Arnaud Laporte. Demain, suite de cette semaine sur l'inachevé, je recevrai le peintre Valerio Adami à propos du dessin et de l'esquisse. À la technique aujourd'hui, c'était Pierre Mine, à la réalisation Jean-Claude Loiseau, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Red, Gabriel Alperné, Léonore Clovis. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, on retrouve le regard d'Albert Jacquard.